Bienvenue à toutes et à tous sur Des Histoires sans frontières. Depuis toujours, le Maroc est à la croisée des mondes européens et africains. Carrefour migratoire, le pays accueille de nombreuses personnes de différentes origines. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux migrants subsahariens sur le territoire marocain.
Ce matin, nous avons la chance d'avoir comme invité Souleymane, un migrant d'une vingtaine d'années, originaire de Guinée-Conakry, qui va nous raconter son voyage périlleux et son quotidien au Maroc depuis 5 ans. Maintenant, laissons place à nos deux journalistes, Lilia et Mina.
Bonjour à tous et surtout bonjour à vous, Souleymane.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous rencontrer.
Merci.
Pour commencer, Souleymane, pouvez-vous vous présenter? D'où venez-vous et qui êtes-vous?
Je suis Diallo Souleymane, de nationalité guinéenne. Je suis né et grandi à Conakry. Je suis issu d'une famille d'un papa polygame qui avait deux femmes et plusieurs enfants. Et mon papa, il travaillait dans une société en Guinée. Après sa retraite, il s'est marié avec ma mère et il est tombé malade. Et après ça, quand on était jeune, il est décédé. C'était compliqué pour toute la famille et tout. Et après, il y a eu des séparations. Donc, ma mère est allée vivre avec nous ailleurs. Et la coépouse de ma maman est restée à la maison familiale avec ses enfants. Après ça, il y a eu encore des complications parce que mes oncles voulaient se marier avec ma mère parce que là, ça, c'est dans une tradition, c'est notre coutume. Et ma mère ne voulait pas, elle s'est opposée, donc elle est restée comme bannie de la famille. Donc elle est restée avec nous, ses enfants. Dans une galère, elle était seule à s'occuper de nous. Avec cette galère, on ne pouvait pas aller dans des écoles privées parce que c'était très cher pour nous. On était dans des écoles publiques qui étaient très distantes de notre localité parce qu'il faut parcourir plusieurs kilomètres pour arriver à l'école. Et aussi, il y a des trucs qu'ils ne pouvaient pas payer pour toi. Donc, il faut aller faire travailler, même étant très jeune, pour pouvoir subvenir à quelques besoins. Parce que là-bas, si tu es issu d'une famille modeste ou d'une famille pauvre, ce n'est pas facile de s'en sortir avec beaucoup de choses. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de travailler pour nous-mêmes, même étant très jeune, pour satisfaire à d'autres besoins. Parce que chez nous, si tu es le jeune, si tu es le garçon, donc, et que le papa ne vit pas, c'est toi qui vas subvenir à plusieurs besoins. Donc, tu n'as pas la liberté aussi de faire beaucoup de choses. Donc, j'ai vécu comme ça et c'est ce qui m'a même poussé, c'est ce qui m'a donné l'idée de sortir de mon pays. Parce que non seulement il n'y avait pas une sécurité pour moi, et aussi il y avait une forte pression pour aider la famille, pour aider ma mère à s'occuper de mes frères et sœurs. Donc, c'est ce qui nous a vraiment poussé à dire que non, il faut qu'on travaille, il faut qu'on trouve un bon métier, il faut qu'on trouve une très bonne formation, afin vraiment de valoriser tout l'effort fourni par ma mère, tout ce qu'elle a pu endurer pour nous soutenir étant jeune. Donc on se disait, on n'a pas le droit d'échouer, on n'a pas le droit de faire quelque chose. Et de ça, on voyait des gens qui revenaient de l'Europe, des gens qui venaient faire les études en Europe, qui rentrent au pays, qui s'occupent des grands postes, qui sont considérés mieux que les gens qui sont formés là-bas. On s'est dit, tiens, pourquoi pas nous aussi essayer de voir si on peut bouger un peu afin de pouvoir faire presque la même chose.
D'accord. Vous avez accepté de nous parler de votre histoire personnelle. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez décidé de migrer?
J'ai parlé de quelques-unes dans la première question, mais cela n'empêche aussi d'en rajouter. Vous savez, moi, je suis né à Conakry et grandi dans une commune qu'on appelle Ratoma. Et cette commune, c'est une commune de la banlieue où il y a beaucoup de violence. Donc, les jeunes de ces communes sont des jeunes du bas quartier, c'est des enfants de pauvres. Et c'est des jeunes qui s'opposent toujours au pouvoir politique qui est mis en place. Donc à chaque fois qu'il y a des manifestations, des élections et quelque chose comme ça, ils ramènent des militaires armés qui tirent à balles réelles sur des jeunes, sur des enfants. Si vous voyez combien de jeunes qui sont tués dans ça, c'est énorme. Et là-bas, les militaires, ils ont les consignes de partir parce que pour eux, c'est des rebelles qui vivent là-bas. De rentrer dans des maisons, de violenter les familles et tout. Et nous, nous habitons dans un quartier qu'on appelle Kosa. C'est là où se trouve le regroupement des manifestations. Donc, dès qu'il y a des manifestations, les militaires viennent jusqu'à dans nos maisons. Renverser tout ce qu'on a et agresser nos mamans et tout. Donc ça, on a vécu ça dans des difficultés atroces. Et de l'autre côté aussi, il y avait le souci de soutenir ma mère, d'aider mes frères. Et parce que moi, je quitte dans une commune qui est Ratoma pour aller dans l'autre commune, Matoto, qui est à 5 km. On marchait à pied pour partir à l'école aussi. Donc, c'est toute cette difficulté-là. S'il y a des manifestations, tu ne peux pas aller à l'école. Tu peux rester 2 mois sans aller à l'école parce qu'il y a des manifestations. Et cela bloque. Toi, tu as envie, par exemple, tu prépares une composition, tu passes toute la nuit à réviser. Il n'y a pas d'électricité. Tu allumes une bougie pour réviser. Donc, tu passes toute une nuit à préparer ton examen. Le lendemain, on te dit qu'il y a une manifestation. Tu restes 2 mois. Tout ce que tu as appris, tu oublies. Et ça ne t'encourage pas, ça ne te donne pas le courage de dire, d'étudier. Et que tu as une pression aussi. Tu dois travailler, tu dois aider. Par exemple, les vacances, tu es obligé d'aller travailler dans des boutiques pour préparer ton année scolaire suivante, pour payer tes fournitures toi-même et tout ce qui part avec pour tes habits et tes chaussures. Donc, c'est des raisons comme ça qui peuvent pousser la plupart des jeunes. Et personnellement, moi, c'est des raisons comme ça qui m'ont poussé vraiment à sortir le pays.
Qu'attendiez-vous alors de votre migration ? Quels étaient vos objectifs au début de votre voyage ?
Avant, dans mon idée, je me disais que ma seule chance, c'est de réussir à rentrer en Europe. C'était ça mon objectif, c'était ça mon idée. Parce que je me dis, une fois en Europe, je peux trouver peut-être des associations ou quelque chose de ce genre qui vont m'aider, qui vont me soutenir, qui vont financer mes études, qui vont m'aider à faire une bonne formation afin que je puisse m'intégrer et trouver un bon travail pour soutenir ma mère. Parce que quand tu regardes financièrement, l'argent de l'Europe et celui de la Guinée, y a un grand écart. Si tu gagnes un tout petit peu là-bas, tu envoies au pays, c'est beaucoup. Tu vois, donc c'est des raisons comme ça qui m'ont vraiment donné l'idée de dire il faut que j'aille, j'apprenne quelque chose qui est valorisé sur moi afin que je puisse revenir, servir, aider ma maman dans ce sens.
Nous savons que votre parcours est très riche. Par quel pays êtes-vous passé pour arriver au Maroc ?
Je suis passé par plusieurs pays parce que quand je suis quitté en Guinée, je suis allé au Mali. J'ai pris un camion, les camions de transport de bagages, de bétail ou de légumes comme ça qui partent, qui font Guinée, Bamako. Donc, je me suis organisé avec quelques amis. On est allé, on a pris le camion jusqu'à Bamako. On voulait atteindre rapidement l'objectif. Donc, on s'est dit, dès que tu quittes Bamako, tu peux avoir un bus qui part à Gao. Et de Gao, tu peux remonter comme ça dans le désert pour essayer de rentrer en Algérie. Et quand nous sommes arrivés à Gao, il y a eu des complications avec les Touareg. Parce que nous sommes non seulement jeunes et on n'avait rien du tout. On n'avait pas préparé le trajet avec une forte somme. Et moi, personnellement, je savais ma situation. Je ne pouvais pas parce que je me suis caché pour sortir. Le jour de mon départ, je me suis organisé avec mon petit frère. En ce moment, il avait 12-13 ans. On s'est organisé. Moi, j'ai essayé de sortir en premier, sans bagage ni rien du tout. Et lui, il a envoyé quelques trucs pour moi afin de pouvoir partir. Donc, je me suis planifié le voyage avec lui seul. C'est lui seul qui savait qu'est-ce que je faisais. Parce que nous sommes les deux garçons de ma maman. Après, donc, dès que les Touareg nous ont arrêtés, ils ont demandé d'argent, ils nous ont torturés et tout, je ne voulais pas appeler ma maman parce que pour moi, c'est impossible d'appeler ma mère. Elle va s'inquiéter, elle va se dire non. Donc, j'ai accepté les tortures Et je me suis dit, non, je n'ai pas de famille, je n'ai personne du tout, faites-moi ce que vous voulez. Et on a encaissé les tortures, je n'ai pas pu suivre la route avec ça. Donc ils m'ont mis dans une voiture pour me ramener à Bamako afin que je puisse me soigner. Quand je suis arrivé à Bamako, j'avais toujours l'idée, je me suis dit, même si je vais rester, il faut que j'arrive, il faut que j'atteigne mon objectif. Parce que non seulement mes oncles disaient que non, c'est des enfants maudits, c'est une famille maudite, donc c'est des gens qui ne vont pas réussir, des choses comme ça. Et nous, on avait ça en tête, on se disait alors, il faut qu'on arrive à atteindre coûte que coûte notre objectif pour montrer ce qu'on peut faire, pour montrer à ces gens-là que vraiment, que ce soit avec eux ou sans eux, nous aussi on peut faire quelque chose. Quand je suis revenu à Bamako, j'avais rien du tout. J'ai essayé de demander d'argent, de mendier et tout. Et j'ai appelé quelques amis parce que j'ai des amis qui sont en Europe, qui sont dans des bonnes situations. Il y a d'autres qui m'ont soutenu. Et à travers ça, je me suis dit, allez, je fonce. Je me suis renseigné sur l'autre route, c'est-à-dire de prendre Bamako, venir traverser par le Burkina, venir au Niger et après rentrer soit en Libye ou bien en Algérie. Donc quand j'ai suivi cette route-là, j'ai pris Bamako, Burkina, du Burkina, je suis arrivé au Niger, à Agadez. C'est une zone où se trouvent la plupart des Touaregs et c'est là où s'organisent des convois qui partent soit en Libye, soit en Algérie. Mais la plupart des convois à Agadez avec les pick-up partent en Libye. Et moi, je voulais aller en Libye parce que mes amis, dès que tu arrives là-bas, tu peux rencontrer des gens qui veulent voyager aussi pour partir en Libye. Donc ils m'ont convaincu, ils m'ont dit à Libye, c'est pas trop cher, tu peux rapidement traverser. Bien vrai que c'est distant, mais c'est pas cher, même avec 200 euros, on peut te mettre dans une pirogue. Je me suis dit, ok, je peux aller alors. J'avais quelque chose de 10 000 à 20 000 francs CFA avec moi. Donc, je me suis arrangé avec un ami, il m'a dit, il va payer mon trajet pour que je puisse aller avec lui. Il va me payer mon trajet jusqu'en Libye, jusqu'à Tripoli, parce que c'est à Tripoli qu'on va organiser les convois. Donc, on a payé un Touareg qui devrait venir à 4 heures du matin, parce qu'on bouge très tôt, qui devrait venir nous chercher à 4 heures du matin. On l'a payé, on a tout donné. Donc, on est parti chez lui, il nous a montré les pick-up et tout. Après, on est revenu. Et on lui a donné l'argent. J'ai ajouté mes 10 000 francs avec l'argent que l'autre a payé. Il nous a dit que c'était 35 000 francs CFA, quelque chose comme ça. Et le monsieur, il a pris l'argent, il a disparu. On est parti là où il nous a montré que c'est lui, on ne l'a pas trouvé. Et il m'est resté avec moi 10 000 francs CFA encore. Et moi, je ne voulais pas retarder là-bas. Mon ami me disait, non, attends, j'ai appelé, l'argent va venir, on va aller à Libye. Je ne voulais pas retarder. Je voulais coûte coûte aller rapidement. Parce que je sais, la famille, ils s'inquiètent derrière. Tu vois, donc il ne fallait pas que je retarde. Moi, je voulais atteindre mon objectif avant d'appeler pour dire que voilà, je suis arrivé. Est-ce que tu me fais comprendre? Donc, quand je suis arrivé, quand je me suis retrouvé dans cette situation, je me suis dit, voilà, il faut que je bouge. J'ai laissé mes affaires avec mon ami, je lui ai dit, ok, je vais aller chercher de quoi manger. Après, j'ai vu un bus qui part directement à Arlit. J'ai pris le bus qui part à Arlit. Et Arlit, c'est la frontière, c'est la dernière ville qui sépare le Niger et l'Algérie. Donc, je suis arrivé là-bas, les militaires nous ont arrêtés. Après, c'est un réseau. Ils appellent maintenant les Touaregs. Les Touaregs aussi appellent les communautés pour dire que voilà, toi, tu es de quelle communauté? Si tu es guinéen, on te dit, ok, on appelle une communauté guinéenne qui va venir te chercher. Moi, je ne voulais même pas aller chez un guinéen. Pour ne pas être identifié, pour ne pas. Parce que je me dis, si je pars là-bas, la famille et tout. Donc, je me suis déclaré comme ivoirien. Je suis allé dans une communauté ivoirienne. On est resté là-bas une semaine comme ça, dans une galère. C'est le désert. On dormait dehors. La nuit, des fois, il y a des tourbillons qui arrivent. Il faut que tu passes 2 ou 3 jours comme ça, sans dormir, des fois, sans se laver, ni rien du tout. Donc, c'était des fois même de quoi manger, c'est difficile pour vous d'avoir. Mais comme on avait l'objectif de partir, on se disait, allez, n'importe quoi, on va aller. Après, c'est là-bas qu'on vous embarque dans des pick-up, mais vraiment très, très serrés dans des pick-up. Une pick-up, parce que c'est des pick-up 4x4. Donc derrière, il n'y a rien du tout. On vous met là-bas avec des bidons, avec des trucs que vous attachez pour la poussière ou le sable du désert. Et on vous achetez aussi des bidons que vous allez attacher, des bidons d'eau. Chacun doit avoir au moins 5 litres d'eau pour la route. Parce que sinon, ce n'est pas facile avec le désert. Et c'est là, on s'est organisé avec ça, on a tout acheté, tout ce qu'il faut. Ils nous ont chargés dans des pick-up pour essayer de traverser le désert. Et le désert, vous bougez vers 2 heures du matin. Vous partez jusqu'au milieu du désert. Quand il fait tard comme ça, on vous dit qu'il faut que vous passiez la nuit. Parce que pour passer la frontière, il faut que vous arriviez très tôt le matin. C'est là où les militaires vont essayer de faire des changements. Les Touaregs, et ils savent, ils connaissent tout. Donc si vous arrivez là-bas, il faut que vous passiez aussi la nuit dans le désert sans rien du tout. On a passé la nuit dans le désert avec une galère, avec des difficultés de voyage. Les chauffeurs, ils roulent vraiment très vite. Ils s'en foutent de ce qu'il y a derrière, même s'il y a des pentes ou quelque chose comme ça. Et ils s'en foutent, ils roulent directement. Et c'est dans ces conditions-là, on a failli même perdre la vie, qu'on est arrivé à rentrer à Ingizam. Ingizam, c'est la première ville quand ils quittent Arlit. Et c'est là-bas aussi, dès que vous arrivez à Ingizam, on vous envoie aussi dans un foyer, dans un truc qu'on appelle des ghettos. Donc vous payez le droit des ghettos, vous payez aussi vos transports pour partir maintenant à Tamraset. On a payé ça. Après, vous payez ça que 1 000 francs CFA ou 2 000 francs CFA, droit des ghettos. Après le transport, c'est 5 000 francs CFA. Moi, je n'avais pas les 5 000 francs CFA. Et je savais qu'il faut que je garde quelque chose au cas où. Donc, tu vas prendre toutes mes informations et tout ce qu'il faut. Tu vas m'envoyer. Si j'arrive à destination, je vais travailler là-bas parce qu'à Tamraset, on peut travailler. Je vais travailler là-bas pour pouvoir rembourser l'argent. Je me suis compris avec le monsieur. Je lui ai donné des affaires qu'ils avaient. Dès qu'il m'a embarqué, on est allé jusqu'à la rentrée de Tamraset. Là où on nous débarque pour dire de prendre maintenant d'autres voitures, parce qu'il y a des voitures qui quittent là-bas et ils ne peuvent pas rentrer jusqu'à Tamraset. Là où j'ai compris qu'on est presque arrivé, on a essayé de se cacher avec des amis, parce que si on part dans les ghettos, on va être comme des prisonniers, ils vont nous retenir là-bas. Donc c'est là où je me suis organisé avec des amis. Dès qu'on s'approche, ils nous font descendre. On dit on va essayer de chercher à manger ou quelque chose comme ça, on se cache. Après on rentre dans des quartiers pour s'en sortir. Et c'est comme ça on est rentré dans des trucs, on s'est en sorti jusqu'à venir maintenant à Tamraset. Arrivé à Tamraset, tu t'organises, tu travailles pour trouver un peu d'argent pour arriver maintenant à Oran.
Vous êtes passé par plein de villes et plein de pays, par bus, par camion, en faisant appel à différentes personnes. Vous avez voyagé avec des amis ?
Quand je suis sorti en Guinée, je suis sorti avec des amis, bien sûr. À chaque étape où tu arrives, tu peux trouver, parce qu'il y a plusieurs gens qui sortent, soit de ta communauté, des Ivoiriens, des Camerounais, et vous avez tous les mêmes objectifs, donc vous faites tous le voyage ensemble.
Et cela vous avait pris combien de temps pour arriver au Maroc ?
Une année.
Alors, merci beaucoup, Souleymane.
Merci, je vous en prie.
Merci les filles. À présent, notre équipe technique, Amandine, Rita, Priscilla et Céleste, ont interrogé des élèves ainsi que des membres de l'équipe pédagogique dans l'établissement. Ils nous ont donné leur avis sur les questions suivantes.
Pensez-vous que le voyage des migrants jusqu'ici a été facile ? Comment pensez-vous améliorer la vie des migrants au Maroc ? On remercie tous les interlocuteurs qui ont participé à ce micro-trottoir.
Comment pensez-vous pouvoir améliorer la vie d'un migrant au Maroc ?
Par exemple, je sais que c'est pas mal dur pour les personnes de trouver un travail, c'est essayer de les aider à trouver un travail. Et pour ceux qui ont vécu pas mal de temps, bah, pouvoir leur donner la carte nationale, parce que c'est plus facile de vivre ici avec la carte nationale.
Il faudrait, je pense, qu'en fait, accorder un peu de crédit aux migrants. Parce qu'en fait, ils sont un peu catalogués, on les voit comme des gens méchants, des gens qui viennent là pour faire du mal et tout, voilà. Mais en fait, c'est des rêves, en fait. C'est que des rêves, donc du coup, on pourrait peut-être en fait, essayer en fait, de leur donner en fait, les droits, les papiers, des trucs comme ça, voilà, pour travailler.
Moi, je pense que l'État devrait faire quelque chose, leur donner plus de moyens, et puis peut-être la population aussi, qui pourrait aider à faire des dons et des trucs comme ça.
Comment pensez-vous améliorer la vie d'un migrant à Marrakech ou au Maroc, généralement ?
Mais déjà, leur permettre, quand il y a des enfants, d'être scolarisés. et de s'installer tout simplement dans des conditions dignes.
En les considérant, leur disant bonjour, discuter avec eux, comprendre un peu leur parcours, leur trajet, leur objectif, savoir un peu leur donner du temps. Et après, si je peux les aider financièrement ou sur la nourriture, sur certains vêtements, le but c'est de considérer l'autre simplement, parce qu'on est tous un moment migrant.
Je pense qu'on devrait vraiment accepter les personnes qui viennent, par exemple, ne pas les rejeter. Par exemple, au feu rouge, on peut trouver plusieurs personnes qui mendient et tout. Je pense qu'au lieu de fermer sa fenêtre, on devrait seulement, même si on ne donne pas d'argent, seulement leur donner un sourire. Je pense que ça pourrait les aider déjà à avoir espoir.
Qu'avez-vous pensé de ce micro-trottoir, Souleymane ?
C'était super. Les gens, ils ont bien répondu. Je trouve que c'est bien.
Et maintenant, nous reprenons l'interview avec nos deux journalistes, Sakina et Alia.
Pourquoi avez-vous choisi le Maroc ?
En fait, je n'ai pas choisi le Maroc. Moi, mon objectif était juste de partir en Europe. Et c'est le Maroc qui m'a plutôt choisi. Parce que si tu as bien compris dans mon parcours, j'ai essayé d'autres fois de partir en Libye parce que l'objectif était de rentrer en Europe pour avoir ce que je t'ai expliqué. Et c'est à travers cela que je suis venu au Maroc. Et même ici, étant au Maroc, parce que toujours l'objectif était de partir en Europe, j'ai essayé plusieurs fois, plusieurs tentatives de rentrer en Europe qui ont échoué. Donc je me dis, c'est le Maroc plutôt qui m'a choisi. Et c'est parce que je ne sais pas si j'ai une mission ici, si j'ai quelque chose à réaliser, ou si, voilà, si j'ai une mission à accomplir. Et je le sais, je le sens que le Maroc m'a choisi parce qu'il y a une raison. C'est ce que j'essaie de développer.
Vous nous avez dit que votre objectif était l'Europe, du coup. Et avez-vous essayé de franchir les frontières plusieurs fois ?
À plusieurs reprises. Quand je suis arrivé à Rabat, je me suis organisé pour la première fois en 2016. Je me suis organisé avec des amis où on a essayé au mois d'août, septembre. On a essayé de venir à Tanger avec des zodiacs pour essayer la traversée pour une première fois. Donc on était motivés, la plupart des gens on ne connaît pas ou la plupart des gens n'est jamais monté dans l'eau. Donc on s'est dit allez on fonce. On est arrivé, on s'est vu avec des gens qui nous disent qu'ils sont des capitaines, qu'ils savent bien ramer. Et alors qu'ils ne savent rien du tout, on était juste nos propres capitaines. Donc vous montez, vous pompez vous-même votre zodiaque, vous montez et vous partez. Donc c'est comme ça que j'ai essayé dans ces difficultés, en essayant de passer plusieurs nuits dans des forêts en train de trouver une voie libre pour essayer de poser notre zodiaque dans l'eau parce qu'il fallait tout pour protéger cela. C'était notre seul moyen de transport. Si on ne l'avait pas, on ne pouvait pas monter, on ne pouvait pas partir. Donc pour le protéger, pour essayer de le garder à nous, il fallait passer plusieurs nuits dans la forêt afin de cibler vraiment, d'avoir une bonne voie pour pouvoir le poser. Et c'est ce qu'on a eu la chance pour une première fois de le faire. On est monté sur l'eau et ça a échoué, ça a mal tourné parce qu'on n'avait pas regardé la météo, on ne s'est pas renseigné de rien du tout. Tout ce qu'on avait, tout notre espoir avec nous, c'est qu'on avait non seulement le numéro d'une dame qu'on appelle Elena, qui appelle la Croix-Rouge. Et on avait aussi avec nous le numéro du Croix-Rouge. Donc, c'est tout ce qu'on avait avec nous. Dès que tu montes et que tu es sûr que vraiment tu es parti très loin, tu essaies de les appeler pour voir s'ils peuvent venir te récupérer, afin que tu puisses rentrer en Europe.
Et comment avez-vous été accueilli au Maroc ?
Au Maroc, plus ou moins bien. Au début, c'était pas du tout facile parce que je suis arrivé à Rabat sans argent ni rien. Donc, il fallait que je reste d'abord dehors, comme la plupart des gens. Je suis resté au marché de Takadoum plusieurs jours. Je dormais dehors avec le froid parce qu'on est arrivé au mois de février 2016 au Maroc. Et on était dans le froid au dehors. Après, là, je me suis organisé pour voir comment chercher un petit travail. Des gens qui te donnent des promesses, ou bien tu vois, tu arrives des fois, on te dit que tu peux pas travailler sans papier. Donc avec toutes ces difficultés, on a pu quand même trouver d'autres gens bienveillants qui nous ont accueillis et qui nous ont donné du travail. Et c'est là que j'ai travaillé durant 3 mois, afin que je puisse avoir l'argent de mon voyage. Et avec ça, on a payé le Zodiac. Et on est parti pour notre première tentative.
Et on avance un peu dans le temps jusqu'à maintenant. Quelle est votre situation ?
Jusqu'à maintenant, après tout ce qui s'est passé, ma situation reste toujours... bien vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolutions, mais d'autre part, je reste toujours un migrant clandestin qui n'a pas de papier au Maroc. Et cela me barre beaucoup de choses. Bien vrai que j'ai essayé de faire beaucoup, beaucoup de demandes qui n'ont pas abouti. Et il y a eu beaucoup de promesses aussi des gens qui n'ont pas été respectées. Et cela, des fois, te met en difficulté. Parce que c'est très dur au Maroc si tu n'as pas tes papiers. Surtout aussi nous. Les migrants clandestins, c'est très difficile. Mais quand tu crois et que tu œuvres dans un bon sens, tu te dis toujours qu'un jour va changer. Donc, sinon, je reste toujours un migrant clandestin qui n'a pas de papier. Et des fois, j'arrive à avoir des opportunités qui peuvent m'aider, mais sans mes papiers, je me retrouve aussi dans une situation qui me dit, bon... Voilà, c'est nul, c'est zéro.
Et quels sont vos projets à l'avenir ?
Mes projets à l'avenir, parce que tu sais, après toutes ces difficultés, après toutes ces tentatives de traversée qui ont mal tourné, et beaucoup de pertes de grandes sommes d'argent, je me suis retrouvé à Tanger dans des rues sans rien du tout. Je marchais, je faisais d'association en association. Parce que quand j'ai essuyé cela, je voulais prouver quelque chose. Parce que quand j'ai repris contact avec ma famille, ma mère plutôt, je lui avais dit que bon, je suis au Maroc et que je fais les études. Pour qu'elle soit rassurée, pour qu'elle soit contente, pour qu'elle se dise « Non, mon fils ne vit pas les calvaires que vivent d'autres migrants. » Donc, j'ai essayé de la rassurer, de la mettre en sécurité en lui disant que je fais des études. Et dans ça, il fallait que je m'organise à trouver des associations qui vont m'aider à faire des formations. C'est comme ça que je suis allé trouver l'association Tanger Accueil Migrants, TAM, qui est à Tanger. Je les ai expliqué mon cas, je les ai dit que j'aimerais bien faire une formation. Et en ce moment, c'était en 2018 et c'était très dur pour les migrants parce que à Tanger, le Maroc avait fait une campagne de rapatriement des migrants. Donc les migrants étaient chassés partout, partout, partout. Même dans les maisons et tout, des fois on t'attrape, on te rapatrie directement dans ton pays. Donc c'était très dur pour nous, on a suivi beaucoup de rapatriements dans ça, donc on vivait de la rue, sans sécurité aussi. Donc quand je suis arrivé maintenant là-bas, je les ai parlé, ils m'ont dit qu'il y a une association qu'on appelle Darna qui offre des formations en pâtisserie. Et c'est là que je suis allé, je me suis intéressé, parce que moi je voulais juste faire une formation, quelle qu'en soit la formation. Je suis allé, j'ai suivi la formation, c'était une formation de 3 mois. Et on a fait cette formation dans une ferme pédagogique. Ils recevaient des enfants et tout, des écoles. Et dans ça, il y avait la dame, la présidente, que j'entendais beaucoup avec elle. Elle m'a proposé si je veux venir une fois par semaine faire du jardinage là-bas. Et c'est à travers ça que j'ai commencé, et elle a apprécié ce que je faisais. Elle m'a dit qu'ils vont reprendre des activités pédagogiques là-bas et que ça m'intéresserait de faire des activités pédagogiques avec des enfants. Et j'ai trouvé cela super, j'ai accepté, j'ai commencé pour une première fois, ils ont apprécié. Et c'est comme ça que j'ai pris le plaisir, j'ai repris le contact de la terre, parce que non seulement mes arrière-parents, ils étaient des nomades, c'était des cultivateurs, donc c'est quelque chose qui est à moi. Et j'ai développé cela là-bas. Après, il y a eu un monsieur qui est venu faire de la permaculture. Et c'est ce qui m'a beaucoup passionné aussi. J'ai commencé à apprendre cela avec passion. J'ai pensé à faire des projets. Je me suis dit, pourquoi pas reprendre cette sauge-là, essayer de faire une ferme pédagogique en Guinée, parce qu'on a déjà un terrain, valoriser ce terrain, faire la ferme pédagogique, copier ce qu'ils ont fait, récupérer des jeunes en difficulté, leur faciliter leur insertion sociale et essayer de faire de mon mieux, parce que j'ai suivi, j'ai vécu c'est quoi l'immigration clandestine, essayer, même si je sais ça va être difficile d'arrêter l'immigration, mais essayer de limiter à travers ma façon de former des jeunes, de les faciliter les sauges, de les prouver que vraiment qu'ils peuvent investir et réussir ces œufs, faire quelque chose ces œufs qui pourra les aider dans leur avenir. Donc c'est mon projet, c'est de faire aujourd'hui ma propre ferme pédagogique pour former ces jeunes-là.
D'accord, merci beaucoup. Pour conclure, Souleymane, avez-vous un message à faire passer à nos auditeurs ?
Le message que j'ai à passer aux auditeurs, d'abord, je vous remercie pour cette émission. On vous remercie vraiment de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer, parce que des fois, ça nous permet de libérer un tout petit peu du bagage qui est sur nous. Et ça nous permet aussi de montrer des gens que si on est là, c'est parce qu'il y a une cause. On n'est pas là parce qu'on veut juste être là, errer comme ça à la nature. Non, c'est parce qu'on a des objectifs, c'est parce qu'on voit qu'on ne peut pas réaliser ces objectifs-là étant chez nous. C'est pourquoi on a décidé de bouger, d'apprendre. Parce que non seulement le voyage aussi permet beaucoup de donner des expériences, si tu le fais dans le bon sens, mais aussi le voyage permet beaucoup de t'enseigner, ça t'enseigne le voyage en quelque sorte. Donc on vous remercie vraiment pour cette émission, de nous avoir donné aussi l'occasion d'exprimer de nous exprimer. Et ce que je vais ajouter aussi à ça, on remercie vraiment tout le monde, la population marocaine, de nous avoir accueillis ces œufs. Et juste, on va ajouter, de les dire vraiment d'aider ceux qu'ils peuvent aider, ceux qui ont des employés, ces œufs, de les aider, de les faciliter leur insertion, d'essayer de faire leur régularisation, parce que c'est très important pour eux. Aujourd'hui, on a plusieurs jeunes migrants ici qui ont oublié l'immigration clandestine, qui ont des bons projets, qui veulent investir, mais du fait qu'ils n'ont pas les papiers, ça les empêche de faire quelque chose. Donc, s'ils peuvent le faire, des contrats, bien vrai qu'ils disent qu'ils ont peur de faire des contrats, parce que quand ils font des contrats, ils savent qu'il y a plusieurs droits, que maintenant le migrant il a le droit de faire beaucoup de choses, mais c'est de couper ce truc-là, essayer de savoir, de se mettre à leur place, de se dire que toi aussi, si tu étais dans cet état, qu'est-ce que tu aurais besoin ? Tu aurais besoin d'être régularisé pour trouver un bon travail, pour trouver un bon salaire. Parce que la plupart des gens qui sont là, ils ont vraiment une pression derrière. Ils ont des familles à soutenir. Ils ont beaucoup de choses à faire. Par exemple, juste une toute petite parenthèse, moi je suis là, je travaille et au mois de juillet, j'ai perdu mon petit frère qui a essayé la traversée en Libye. Et je me suis retrouvé ce jour-là, j'avais que 300 dirhams en poste. Je devrais rentrer en Guinée. Je n'avais pas de papier ni rien du tout. Donc, des fois, c'est très, très difficile pour les gens de se retrouver. Désolé. De se retrouver dans des situations de ce genre. Parce que les gens...
Prenez votre temps.
Les gens vivent vraiment des difficultés. Et des fois, ils sont manipulés. Et c'est ce qui fait très mal. Ils sont manipulés. Tu peux trouver des gens qui peuvent te donner des fausses promesses afin de, que tu puisses vraiment faire ce qu'ils veulent, eux. Et dès qu'ils finissent d'avoir ce qu'ils veulent en toi, du jour au lendemain, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien qui vous lie. Ils peuvent dire, allez, c'est bon, tu peux partir. Et tu peux te retrouver dans des difficultés. Donc, vraiment, merci pour cette émission. Merci de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer, d'exprimer cela. On vous remercie vraiment.
Merci.
Je vous en prie.
Après cette histoire très touchante, on vous laisse avec Charles qui va finir.
C'est déjà la fin de l'émission. Nous tenons tout d'abord à remercier Souleyman pour son témoignage et sa disponibilité, ainsi que Cécile, fondatrice de l'association Global Diaspora.
Nous voulons aussi remercier Madame Moumad et Monsieur Bobet pour leur encadrement pédagogique, ainsi que Monsieur Faure et Monsieur Philippodi pour leur soutien.
Merci surtout à tous les participants et principalement aux élèves de 3e 4 du lycée Victor Hugo qui ont réalisé ce projet inédit et riche. À bientôt sur Des Histoires sans frontières.
Sans frontières.